Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax.
Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr.
Tous les conseils de la Dream Team RMC en exclusivité dès 13h
avec Eric Salio.
Salut à tous, bienvenue dans les paris 100% tennis. On s'intéresse aujourd'hui au tournoi de Miami chez les hommes mais aussi chez les femmes avec au programme Hugo Humbert face à Botic Van de Zandschulp et puis Luca Van Aché face à Casper Ruud. Chez les femmes, Caroline Garcia jouera contre Victoria Tomova. Et puis on dira un mot de ce match très particulier entre Paola Badosa et Arina Sabalenka. Pour vous aider à parier, nous accueillons Eric Salio. Salut Eric.
Salut à tous.
Un bilan pas bon en ce qui me concerne, moyen pour toi Eric. Mon fils a bien battu Lajovic 2-7-0, comme on l'avait dit, c'était un 80. En revanche, on avait tenté un coup avec Harold Maillot, qui finalement s'est incliné face à Daniel Altmaier, qui pourtant n'avait gagné que 4 matchs sur 11 cette saison. Et puis Alexandre Muller a perdu contre le 863e mondial. Oui, c'est Kwon, le Coréen, qui vaut mieux que son classement. La cote était à 2,75 et on ne l'a pas trouvé, c'était vraiment difficile à envisager puisque Kwon n'avait toujours pas gagné un match en 2024. Et malheureusement, Diane Parry a perdu contre Adad Maia. C'est là où tu avais fait la différence, Eric, et tu as même été visionnaire puisque tu avais dit que la Brésilienne perdrait le premier et s'imposerait en 3 manches. C'était coté à 3,85. Donc, sur le total, tu es quand même positif grâce à ce Adad Maia en 3 manches à 3,85. Qu'est-ce qu'on retient? La défaite de Maio, la défaite de Muller?
La défaite de Muller... est embêtant. Pourquoi? Parce que c'est pas un bon début de saison et surtout ça met en danger sa participation à Roland-Garros. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que...
En tout cas, en qualification directe, il faudrait qu'il passe éventuellement par les qualifs, sinon.
Voilà, parce qu'il va perdre dans peu de temps, des mi-avril, les points de sa finale à Marrakech.
Oui, on l'avait évoqué hier d'ailleurs.
Voilà, 150 points. Donc si par le plus grand des malheurs, il brille pas au Maroc parce qu'il est inscrit, mais déjà faut qu'il rentre dans le tableau, ce qui est pas fait encore. Si jamais donc il fait pas au moins un quart, il sera pas dans le cut pour Roland, a priori. Donc ça voudra dire que soit il devra tenir une wildcard, soit passer par les qualifs. Donc non, c'est pas un beau début de saison. Elle s'est mal goupillée cette année avec cette défaite au premier tour à Melbourne contre Hugo Grenier en ayant eu deux balles de match. Et derrière, c'est vrai qu'il a du mal à retrouver la confiance. Et bon, maintenant, Kwon, on le connaît. C'est un garçon qui a été très fort. Bon, voilà, il a été blessé. Petit à petit, tu retrouves ton niveau, quelque part. Et
c'est sa première victoire. Depuis, il n'avait pas joué depuis le 17 septembre. Il a rejoué à partir du 16 janvier et il avait perdu ses 3 premiers matchs.
Oui, ça y est, il a débloqué le compteur. Et on va le retrouver très vite au plus haut niveau, c'est évident. Non, et Diane Parry, c'est un super premier set. Et puis derrière, l'autre a commencé à durcir le jeu. Et en plus, il y avait une ambiance un peu Coupe Davis, enfin Fed Cup, pardon, puisque il y avait une grosse colonie brésilienne dans les tribunes. Et je pense que ça a beaucoup aidé Adad Maia à aller chercher la victoire. C'est dommage pour Diane parce que c'est beaucoup de matchs où elle accroche les meilleurs. Je pense à Sakkari, à Indian Wells, où vraiment elle était pas loin
elle perd en 8e,
de la torpiller, puisqu'elle avait le break au 3e set.
Et même Kalinina aussi à Austin, je crois.
Kalinina, et puis aussi, si on remonte plus loin, Andreeva à Melbourne. Donc tu vois, le niveau est là, il manque pas grand-chose, mais je cesse de le dire, mais je pense qu'elle va décrocher sa place pour les Jeux, puisque c'est son objectif, elle est dans le cut, on va dire, pour l'instant, donc il faut juste qu'elle continue à progresser, puis en plus bientôt on va passer sur terre battue, c'est sa surface préférée, donc je ne fais pas trop de soucis. Je pense que ce sera la troisième française qualifiée pour les Jeux, puisque Garcia et Burel c'est quasiment fait. En revanche, on aura une quatrième, mais il faut qu'elle réponde au quota, et pour l'instant c'est pas le cas ni pour Dedin ni pour Candé.
Et bien justement, on va commencer avec Caroline Garcia à Miami qui va jouer contre Victoria Tomova. Elle est largement favorite à 1,39, c'est 2,80 pour la victoire de Tomova. Caroline Garcia, c'est 3 victoires et 6 défaites en 2024. C'est un peu sur la continuité de la saison dernière où c'était pas brillant. Mais ce qui est rassurant, c'est que parmi ces 3 victoires, elle en a justement une contre Tomova. C'était le 9 mars. Donc, c'était il y a une quinzaine de jours. Elle avait gagné 6-1 le premier, perdu le deuxième 6-3 et gagné finalement en 6-3 dans la troisième manche. Tomova est une joueuse qui a autant de victoires que de défaites en 2024, qui collectionne les éliminations au premier ou au deuxième tour. Sa meilleure performance, c'est un quart de finale à Hobart, dont rien d'exceptionnel. Au premier tour, elle a battu Korpach l'Allemande. J'ose espérer que Caroline Garcia, qui elle aussi a beaucoup d'éliminations précoces, notamment lors de la tournée au Moyen-Orient, alors là, ça avait été catastrophique, Abu Dhabi, Doha, Dubaï, que des éliminations au premier tour. Deuxième tour, c'était Adélaïde, l'Open d'Australie et Indian Wells. J'espère qu'elle va confirmer qu'elle est plus forte que cette Bulgare. Donc je jouerai Caroline Garcia, mais je la jouerai avec plus de 18 jeux dans le match, pour passer de 1,39 à 1,92, je ne la vois pas du tout mettre une raclée à Tomova, en fait.
Écoute, je pense que le match d'Indian Wells, il fallait resituer le contexte. Elle avait pu gagner un match depuis l'Open d'Australie, donc il y avait une certaine fébrilité qui s'est vue au deuxième set. Mais derrière, elle a fini quand même, je ne peux pas dire comme un avion, mais voilà, elle a jamais vraiment été en danger. Donc je pense que mine de rien, ce match lui a fait du bien, même si deux jours plus tard, elle perd en deux petits sets contre Sakkari. Moi, je pense au contraire qu'elle va...
Ah, qu'elle va lui mettre une tôle.
Bah, une tôle, je pense qu'elle va essayer de boucler ça en deux, puisque, souviens-toi, elle lui a collé...
C'est 1,84, c'est pas mal aussi. Hein.
6-1 au premier set, il y a eu ce petit moment de relâchement, parce que tu vois, t'as toujours des pensées négatives, des... Qui font que là tu lâches un break et puis derrière tu te mets dans la difficulté. Parce que bon, je l'ai vu jouer cette Tomova, ça rien d'exceptionnel. Hein, c'est une, je sais même pas si elle est à son meilleur ranking, je sais pas, mais elle doit pas être
73e.
Elle doit pas être loin d'être à son max, tu vois, son max de potentiel. Ce qui est pas le cas de Caroline Garcia. Et on le sait, mon Caro, elle traverse une petite période difficile. Oui, d'accord, mais bon, intrinsèquement, elle est quand même supérieure à cette fille. Je n'arrive pas à envisager la défaite. Tu vois, elle a été 64e à son pic. Tomova, elle a 29 ans, ça va, quoi. Non, je... De 7-0, j'y vais. Je pense qu'elle va rectifier le tir.
1,84, le 2-7-0. Pour moi, c'est Caroline Garcia et plus de 18 jeux. C'est 1,92, ce qui n'empêche pas que ça soit un 2-7-0, évidemment. C'est tout à fait possible. Un match très particulier qu'on souhaitait évoquer parce que Paola Badosa et Arina Sabalenka sont les meilleures amies. Mais une situation très particulière pour la Biélorusse que tu vas nous raconter, Eric.
Oui, puisqu'il y a quelques jours, on a appris le décès de... Alors j'ai oublié son nom, bien sûr. Enfin bon, c'était... Ouais. On pensait qu'à l'époque, c'était son compagnon, puisque voilà, il l'accompagnait beaucoup sur le circuit, un ancien hockeyeur de haut niveau. Et en fait, ils étaient séparés depuis quelques jours, quelques semaines, on va dire. Mais le traumatisme est là. D'ailleurs, elle s'est exprimée sur les réseaux sociaux. Ça a été un choc terrible pour elle, évidemment, parce que... En plus, les circonstances du décès sont troubles, enfin, disons que la police l'a retrouvé en bas d'un immeuble, quoi, donc qu'il aurait sauté du balcon. C'est la thèse du suicide qui est privilégiée, on va dire. Mais bon, j'en dirai pas plus, je sais pas. Hein. Donc, c'est, ouais. T'apprends que ton ex-compagnon a sauté du balcon, c'est vrai que.
Surtout si c'est toi qui as provoqué la séparation.
Ah, voilà, tu vas loin. Là,
non, mais pas, c'est envisageable, tu vois.
Tout est possible, mon cher Christophe. Donc, dans un premier temps, parce que je sais qu'on en avait parlé dans les paris RMC dès lundi, moi je pensais qu'Arina se retirait.
Elle est déclarée forfait.
Et, oui. Voilà, et finalement, donc, maintenant on comprend mieux pourquoi, puisqu'ils n'étaient plus ensemble, mais quand même. Oui. Donc, elle a décidé de rester donc, dans le tournoi. Elle a eu droit à une petite faveur, je ne sais pas si vous l'avez noté, puisqu'elle était. Hier, ils ont fait jouer tout le bas de tableau féminin. Sauf le match d'Arina Sabalenka. Donc,
au début, elle était prévue jeudi. Et ensuite, ça a été décalé à vendredi.
Voilà, c'est le seul match du bas de tableau qui a été, on va dire, reprogrammé. Je pense qu'elle avait demandé un petit peu de temps. Comme les filles ont l'habitude d'enchaîner les matchs jour après jour, c'est pas un problème pour l'organisation du tournoi. Mais voilà, on a noté quand même qu'il y a eu un petit coup de pouce. Donc maintenant... Le problème, c'est...
Je vous donne les cotes quand même, hein, parce que je ne les ai pas données. 3,35 Badossa, 1,29 Sabalenka. Il faut bien noter aussi qu'après ce drame, elle se retrouve à jouer contre sa meilleure amie.
Non, en plus. Non, mais c'est un match qui est... Il faut se méfier, quoi. Je veux dire, si vous avez envie de jouer sur ce match, effectivement, la logique voudrait que Sabalenka...
Il y a 2-2 dans les confrontations, mais Sabalenka a gagné les deux dernières. C'était à chaque fois à Stuttgart sur gazon.
On a aussi noté que Badosa n'est pas au top de sa forme parce qu'elle a eu pas mal d'abandons et de forfaits. On sait qu'elle a des soucis au niveau du dos et que son match face à Simona Halep n'était pas probant. Elle s'en est sortie en 3 parce que Simona Halep, qui revient à la compétition, a quand même baissé physiquement, ce qui est tout à fait logique. Donc voilà, c'est un match piège. C'est un match piège.
Si vous pensez je jouerais 3-7 à 2-40 sans donner le nom du vainqueur.
Ouais. Mais de l'autre côté, si vous pensez qu'une fille ne peut pas jouer sereinement après un tel drame, allez sur
Badosa. Il faut jouer Badosa et c'est 3,35. Et c'est un peu mon avis, Eric. Et c'est pour ça que moi, je n'irai pas jusqu'à le conseiller parce que c'est vraiment trop particulier. Mais si je devais jouer, je jouerais Badosa à 3,35.
Je comprends. Je comprends. Tu peux effectivement ne pas du tout avoir la tête au tennis. Et t'es une sorte de pilote automatique. Parfois, ça... On a des exemples.
Ça peut être totalement l'inverse aussi.
Exactement. Moi, je me souviens une année, Guy Forget avait perdu son papa et il était au tournoi de Bordeaux, je crois. Le fameux tournoi de Bordeaux qui était dans le circuit à l'époque.
Primrose,
et il avait gagné le tournoi. Voilà, c'est gagné le tournoi, tu vois. Il avait gagné le tournoi parce qu'il voulait jouer pour son papa. Et... Donc, tu vois, ça dépend. Ça dépend un peu du caractère du joueur ou de la joueuse. Donc, voilà, on voulait vous en parler, mais... On va pas trop vous influencer, mais au moins vous avez les données du problème, entre guillemets.
Donc, et toi, tu mettrais aussi plutôt Badosa, si tu devais jouer toi-même.
Je ne me mouille pas du tout, je ne mettrais pas un sou sur ce match, voilà.
Très bien. Casper Ruud face à Lucas Van Acheu. Match déséquilibré au niveau des cotes. 1,23 seulement pour la victoire du Norvégien et 3,85 pour la victoire de Lucas Van Acheu. Je vérifie si les cotes ont changé parce que vous savez toujours que les cotes évoluent. Oui, ça a évolué. 1,20 seulement pour Ruud et 4,20 pour Van Acheu. Aucune confrontation entre les deux joueurs. Ça va être très compliqué pour le Français qui a battu Kotov au premier tour de 7-0, qui a un bilan tout juste positif avec 11 victoires et 10 défaites en 2024, à part une demi-finale au tournoi de Phoenix, le Challenger. Il n'a rien fait d'exceptionnel, s'il avait fait un 8e aussi à Auckland en tout début d'année. Alors que Casper Ruud, après une année très compliquée en 2023, semble aller beaucoup mieux, mais a encore quelques petits couacs. Mais bon, il a fait finale à Acapulco, qui perd contre Demi-Nord, finale à Los Cabos, qui perd contre Thompson, donc ça, c'est pas logique. C'est deux tournois qu'il aurait logiquement dû remporter. Il perd contre Paul en quart de finale à Indian Wells, et contre Norrie au troisième tour de l'Open d'Australie. Mais il n'y a que 4 défaites en 17 matchs. Donc je jouerai Casper Ruud 2-7-0 à 1,60. À 1,56, c'est même pas extraordinaire. Casper Ruud est moins de 22 jeux à 2,15 éventuellement. Je pense que malheureusement, ça va être trop compliqué pour Lucas.
Ouais, c'est un gros morceau, effectivement, mais bon, malheureusement, c'est le jeu des Masters 1000. Quand tu passes un tour derrière, tu prends une tête de série. Alors, soit tu gagnes au loto, à savoir tu prends une tête de série assez éloignée, on va dire. C'est le cas de Gaël Monfils, qui jouera demain contre Thompson, qui a été promu tête de série de 33, je crois. Soit tu prends un gros d'entrée des deuxièmes tours, c'est le cas de Lucas Van Acheu. Donc, il a, sur le papier, il n'a rien à perdre, mais quand il y a un gros écart, ça peut donner le même scénario qu'à Dubaï, par exemple, où il avait joué Kachanov, qui était 15e mondial à l'époque, et à l'époque, c'était pas vieux, c'était fin février. Il est pris 2 et 3. Mais souvenez-vous aussi, on a souvent parlé dans les. Enfin, j'en fais souvent référence à ce match dans les paris RMC. Il y a quasiment un an, il avait pris un set à Novak Djokovic à Luka. Ouais. Donc là, il n'a pas peur de se mesurer au grand. Il a une base de jeu très solide. Maintenant, de là à envisager l'exploit contre un garçon qui est quand même super régulier, qui fait très peu de contres. à part contre Gaël, mon fils, mais ce jour-là, mon fils. Non, il a battu mon fils, pardon. Mais je vois pas. Allez, disons que Lucas Van Hache n'a pas la confiance de la Monf. C'est pour ça que j'ai du mal à envisager un succès, parce qu'en plus, Rude, voilà, c'est un mec qui est, ouais, je l'ai dit, qui est ultra solide. C'est pas génial, on est d'accord, mais.
Ouais, enfin, surtout que ça va de mieux en mieux, hein, en ce début d'année 2024, oui. Pour lui en plus.
Non, il n'y a rien à dire, il est au point, il réalise un très, but, des
quatre,
très bon début.
4 tournois, 2 finales, c'est quand même pas mal.
Ouais, c'est pas mal. Le truc peut-être à tenter, c'est un bon premier set de Lucas Van Hache, avec un premier set accroché, voire il arrive à grappiller un tie-break, un truc comme ça, et puis il met derrière.
Alors, premier set, plus de 10 jeux, c'est-à-dire un 7-5 ou un 7-6, c'est 2,85, et le tie-break, c'est 3,85. Donc déjà, le plus de 10 jeux à 2,85, si vous voyez un premier set accroché, ça suffit peut-être.
Ouais. Et Van Hache qui prend un set, c'est un petit monde beaucoup plus haut, là, évidemment.
Alors, Van Hache remporte un set, 1,98.
Et qui prend le premier?
3,10.
Oui, parce que tu vois, contre Djokovic, il avait pris le premier. Peut-être je me trompe, mais ce match, pour moi, ça peut être une base. Ce match contre Djoko, il avait perdu 6-7, 6-3, 6-3. Donc tu vois, il y avait aussi l'effet de surprise. Hein. Je pense que Djokovic ne connaissait pas Van Hache.
Ben, je pense que Rude ne le connaît peut-être pas très bien non plus. Hein. Ah, en tout cas, ils ne se sont jamais rencontrés.
Oui, mais bon...
Enfin oui, il y a un an de plus, oui, il a oui.
Il savent quand même que le môme, il est bien installé sur le circuit, il connaît son style de jeu, mais voilà, je pense que Rude va plutôt apprécier le style de jeu du français. Donc oui, je tenterai plutôt un premier set accroché, mais victoire de Rude. Victoire de Rude au final.
Ok, français. Plus 10 jeux, 2,85. Non. Et on termine avec Hugo Humbert face à Botik Van de Zandschulp, le néerlandais. Hugo Humbert, archi favori, évidemment, vous vous en doutez. Il est à 1,21. Van de Zandschulp est à 4. Hugo Humbert, 15e mondial, tête de série 14. Le néerlandais est 77e mondial. Ils se sont joués 2 fois et Humbert s'est toujours imposé. La dernière fois, c'était l'année dernière à Shanghai, en 3 manches, 6-2 dans le 3e. Hugo Humbert a déjà gagné 2 tournois, Marseille et Doha. Il fait une excellente saison avec 14 victoires en 18 matchs. Dynamique totalement opposée pour Van de Zandschulp, qui a gagné que 4 rencontres sur les 12 qu'il a disputées. Il a battu Hijikata au premier tour à Miami et il avait dominé auparavant Manarino, Hussler et Eubanks. Mais alors, une collection aussi encore de défaites au premier tour et au deuxième tour, c'est juste impressionnant. Bah d'ailleurs, il n'a pas fait un seul troisième tour cette saison. Victoire d'Hugo Humbert, qui me paraît être un coup sûr. Le 2-7-0-1-62, j'y crois aussi. Et Humbert est moins de 22 jeux, c'est coté à 2,05. Le seul petit risque avec ce pari-là, c'est qu'il y ait éventuellement un tie-break, donc ça fait déjà 13 jeux. Mais après, il faudrait qu'il gagne 6-2, quoi, s'il y avait un tie-break dans le premier, par exemple. Mais on voit que même contre Urca, je crois, il n'y avait pas eu que des tie-breaks. Urca, ce qu'il a battu... que Humbert a battu 2 fois hein, cette saison. Il a battu aussi Dimitrov. Donc, il a vraiment de belles perfs. Il a battu Medvedev. C'est la valeur sûre du tennis masculin français, Hugo Humbert, Eric.
Oui, c'est le numéro 1 français. Hein, il n'y a aucun doute là-dessus. Il est en confiance, même s'il a eu un petit pépin physique, on va dire, aux adducteurs. Récemment, donc je pense que il avait beaucoup joué, effectivement, l'enchaînement Marseille-Rotterdam-Doha-Dubaï lui a fait un peu mal aux organismes, et c'est vrai qu'il n'a pas été très très bon, enfin l'a connu meilleur contre Tommy Paul, il prend 4 et 4,
ouais.
Et il n'y a pas eu du tout d'espoir.
Indian Wells,
ouais. Mais apparemment, ça, c'était le 11 mars. Donc, tu vois, l'avantage des têtes de série, c'est qu'effectivement, tu as beaucoup plus de temps pour préparer le deuxième Masters 1000. Donc, oui, je suis confiant. Je suis confiant. En plus, Van de Zandschulp, c'est un garçon qui peut péter un câble à tout moment. On l'a vu récemment. Mais j'arrive plus à me souvenir quel match c'était, tu sais, où il a envoyé une balle dans les tribunes alors qu'il avait déjà un avertissement, alors qu'il venait de se procurer une balle de 7. Mmh. C'était un truc complètement insensé.
Tu te souviens pas de tournoi?
C'était faudrait que je regarde son palmarès, mais je vais te dire ça tout de suite. Donc, non, mais en plus, je vais te dire ça tout de suite. Hugo, il a la confiance, sa balle va très très vite. C'est tout ce que va détester Van de Sandschoek, qui est plutôt un grand gabarit, quoi. C'est un garçon qui a du mal à... Enfin, je pense que quand tu l'agresses, il aime pas ça du tout.
Ouais.
Donc, je suis assez confiant. Je pense que ça peut passer assez facilement. Je dirais Hugo en 2, oui.
Hugo en 2, 1,62. Hugo en moins de 22 jeux à 2,05. Il n'a pas eu de chance quand même, 22 ans de choupe. Hein, je vois. Premier tour à Open d'Australie, Sinner. Premier tour à Rotterdam, Sinner. Premier tour à Doha, mon fils. Il prend Korda au deuxième tour à Dubaï. C'est vrai qu'il n'est pas vraiment gâté par le tirage, mais ça, c'est aussi le problème des joueurs qui sont 77e mondial.
Ça y est, j'ai retrouvé le match. C'était à Doha, c'était contre Gaël, mon fils.
D'accord.
Tie break du deuxième. Donc il avait pris un warning juste avant pour un jeu de raquette, on va dire. Et donc il sert à 7 points partout, ou 8 points partout. Il fait service gagnant. Et là, stupeur, il balance une balle dans les tribunes. Alors qu'il vient de marquer le point. C'est une balle qui lui offre une balle de 7. Hein. Tu me suis bien, hein ?
Oui, complètement.
Donc l'arbitre applique le règlement. Deuxième avertissement. Point de pénalité.
Donc du coup, égalité.
Du coup, égalité, et derrière, il perd les deux points, et puis il bat ça.
C'est hallucinant.
Insensé. Donc, je pense que le mec est un peu nerveux, et même si derrière, il a battu Manarino, mais il perd sur Korda, il prend une branlée, il prend deux petits sets, il n'est pas dans la forme de sa vie. Hein.
Voilà. Non. Bah, c'est pour ça qu'il a chuté au classement, Humbert, d'ailleurs.
Ouais. Et Shapovalov, Humbert, c'est un peu le même style de jeu, tu as des gauchers très agressifs qui prennent à balto, qui te mettent dans les cordes. Donc oui, le 2-7-0 est peut-être le bon plan.
Très bien. Ben, c'est noté. Nous sommes d'accord sur Humbert Van de Zandschoop, sur Ruud van Aché, malheureusement, pour le français, sur Caroline Garcia face à Tomova, et puis on l'est presque sur Badosa Sabalenka, même si tu préfères pas te prononcer sur un vainqueur, mais bon, le 3-7 à 2-40, ça se joue aussi sur cette rencontre, comme ça on donne pas le nom du vainqueur. Ça risque d'être un match à forte émotion du côté de Miami, surtout que forcément Badosa étant la meilleure amie de Sabalenka, connaissait très bien aussi celui qui est décédé. Voilà, on a fait le tour. On parlera de Gaël, mon fils, demain dans les Paris RMC, en direct entre 12h et 13h. Bonne journée à tous, bon pari, merci Eric. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.
Winamax, le plus important, c'est de gagner.
C'est le moment de parier sur RMC avec Winamax. Les jeux d'argent et de hasard peuvent être dangereux. Perte d'argent, conflits familiaux, addiction. Retrouvez nos conseils sur joueurs-info-service.fr et au 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.